France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quel avenir pour la Poste à l'occasion de la publication aujourd'hui de ses résultats annuels. Bénéfice net en hausse de 0,3%. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5%. Les mails, les SMS, nous n'arrêtons pas d'en envoyer. Alors évidemment, la bonne vieille lettre avec son timbre, elle en prend un coup. Une chute inéluctable du nombre de courriers acheminés de l'ordre de 6 à 7% par an. Aucune autre entreprise n'est confrontée à une telle baisse de son volume d'affaires année après année. La Poste doit donc se diversifier ses activités. Elle devient multimétier, banque, mobile, service internet, assistance aux personnes. Désormais, la banque postale et le colis express représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de la Poste. Elle reste un cas unique, spécifique, la Poste. Ses 73 000 facteurs représentent le premier réseau de présence physique sur le territoire français. La Poste, avec ses 220 000 postiers, c'est le plus gros employeur en France. Elle veut devenir la première entreprise de proximité humaine. Toutes les questions que vous vous posez sur cette vénérable institution, c'est maintenant.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Nicole est en ligne avec nous. Bonsoir Nicole.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, moi je voulais parler de la dégradation du service que l'on subit dans les petites communes. J'habite une commune de 2200 habitants et en 15 ans, nous sommes passés de 30 heures d'ouverture à 24 heures et maintenant à 12 heures. Donc, c'est beaucoup plus difficile de venir à la poste. Les 12 heures affichées ne sont pas toujours respectées. Donc, les personnes ne savent plus si le bureau est ouvert, n'est pas ouvert. C'est vraiment très embêtant. Donc, le service est dégradé. En plus, nous avons la chance, malgré tout, d'avoir le samedi matin qui reste ouvert. Et de nombreux bureaux autour de nous ont le samedi matin qui est fermé, y compris dans une ville de 6000 habitants. C'est un problème pour venir à la poste. C'est un service vraiment qui se dégrade. Et on veut vraiment garder les bureaux, ce qu'on appelle de plein exercice. On a la qualité des services, les retraits faciles et toutes les opérations qu'on fait dans un bureau de poste. On veut vraiment garder cette qualité de service dans les milieux ruraux.
Donc vous, quand vous entendez que la Poste dit, ben voilà, il y a moins de courriers, mais on veut être quand même très proche, rendre de nombreux services aux Français, devenir la première entreprise de proximité humaine, vous ne ressentez pas cela?
Non, non, vraiment, on sent une organisation pour que les petits bureaux disparaissent et aller dans les bureaux qui sont dans les villes moyennes avec que des automates. On sent la perte de lien et la qualité, on veut vraiment garder la qualité des bureaux de poste.
Alors pour répondre à ce constat que vous faites, Nicole, nos invités dans ce studio ce soir, Régis Blanchot, bonsoir,
bonsoir.
Vous êtes cadre au service courrier du Centre financier de Paris, syndicaliste sud PTT, et puis Nadège Vézina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, et vous avez publié « Les métamorphoses de la Poste » aux presses universitaires de France. Régis Blanchot, est-ce que vous partagez le constat de Nicole, qui constate une dégradation ?
Complètement.
Oui.
Cette dame a vraiment mis le doigt sur le problème et de ce qu'on appelle de la présence postale territoriale, où il y a des obligations, où il doit y avoir 17 000 points de contact. Et ça, c'était une décision qui a été prise en 2004. Mais depuis, c'était un problème de sémantique. On reste bien sur 17 000 points de contact, mais le nombre de bureaux de poste, dont madame fait très bien de préciser que ce dont on a besoin, c'est des bureaux de poste de plein exercice. On veut faire toutes les prestations de la poste. Alors que là, maintenant, plus de la moitié de ces points de contact sont des agences postales communales, où il y a moins de prestations offertes, ou pire encore, des relais postes commerçants dans les supermarchés ou les supérettes, chez le buraliste. Enfin, il y a toutes sortes d'activités où là, c'est vraiment le service minimum, et c'est plus le service public. Et donc là, il y a un éloignement des populations, et c'est pas du tout la question de la présence, comme veut le faire croire la direction de la Poste.
Nadège Vézina.
Oui, c'est une question extrêmement intéressante qu'elle pose, et elle pose en effet les enjeux de la présence territoriale, parce qu'on peut s'interroger sur est-ce qu'il y a dégradation du service par un manque d'utilisation du bureau de poste ou est-ce qu'il y a un manque d'utilisation parce que le service est déjà dégradé? Et c'est une question qu'on peut poser, on peut s'interroger sur le raisonnement postal, puisque est-ce que le bureau, un bureau non utilisé sera amené à être fermé? Donc réduire les horaires d'un bureau de poste, c'est une chose, mais c'est autre chose de dire qu'il n'est pas fréquenté pour le fermer. On pourrait faire des réductions d'horaires, là les réductions d'horaires, la dame ne l'a pas précisé, mais en général c'est plutôt des 9h midi, 14h, 17h, donc des horaires de journée où les gens actifs ne peuvent pas s'y rendre, alors que finalement on mettrait d'autres types d'horaires, type du 7h, 10h, puis des horaires en soirée ou le samedi matin, ça a été évoqué, ça changerait complètement la configuration. C'est la même logique qu'avec les lignes SNCF. Est-ce qu'elles ne sont pas utilisées parce qu'elles sont en train d'être fermées ou est-ce qu'elles vont fermer parce qu'elles ne sont pas utilisées?
François au standard, bonsoir François, vous écoutez le téléphone sonne et vous vouliez intervenir, c'est maintenant, allez-y.
Oui, ben je partage ce qui vient d'être dit. Autrement, on a l'impression que la direction de la Poste, elle parle de réorganisation. En fait, elle désorganise ses propres services, réduit les horaires. Il y a moins d'usagers puisque les horaires sont désorganisés, et donc la fréquentation baisse. Et du coup, la Poste ferme ses bureaux de poste. Moi, je pense que la direction de la Poste a comme principale préoccupation l'augmentation de ses profits. Il va y avoir, je crois, 1 milliard de profits cette année. Et pour ça, elle ferme ses bureaux de poste, elle supprime des emplois alors qu'elle touche 300 millions de CICE, et donc il y a dégradation du service public alors que cet argent pourrait permettre de moderniser et de développer les bureaux de poste, de reconquérir des services publics dans les territoires. La Poste pourrait être centrale dans cette reconquête et développer la démocratie avec les usagers, les élus, les syndicalistes pour faire un grand service public moderne. Elle parle de la baisse du volume du courrier, mais ça ressemble à un prétexte. Et les nouvelles activités, mais les secteurs le faisaient avant gratuitement, c'était le service public. Il y avait un contact humain. Aujourd'hui, ça va être fait en faisant payer les usagers. Donc, dégradation, encore une fois, du service public pour les usagers, puisqu'on va marchandiser des activités. Donc, voilà, la politique de la Poste est centrée sur les profits. Il faudrait une autre politique pour reconquérir le service public.
Eh bien, quel réquisitoire, Régis Blanchot, cadre au service courrier du Centre financier de Paris, syndicaliste Sud-PTT.
Bah, j'ai envie de dire, pas mieux que ce que je viens d'entendre. Il y a quand même quelques précisions. Monsieur a tout à fait raison lorsqu'il dit que la direction de la Poste réduit les horaires, désorganise des services et des bureaux de poste pour après justifier la fermeture. C'est ce qu'on appelait la spirale du déclin. C'est par palier pour arriver à la fermeture. Après, ce que dit monsieur est aussi très intéressant. C'est que le service public, il n'appartient certes pas aux salariés de la Poste, il appartient aussi aux salariés de la Poste, mais aussi et surtout aux usagers. Et c'est comment on arrive à organiser un vrai débat sur quels sont les besoins du service public aujourd'hui. Par exemple, il y a les maisons de service au public, il y a 500 qui sont ouvertes en France, avec des partenariats, avec certains, avec les bureaux de poste, d'autres services publics. C'est sans doute des choses, la mutualisation des services publics, pour les maintenir et les conforter, que ce soit en ville ou dans les milieux ruraux, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut discuter. Et très globalement sur la Poste, je dirais, avant de parler sur quel service peut-elle, vers lesquels elle peut aller, c'est de savoir exactement ce qu'on veut dans, par exemple, sur les visites médicales, c'est la question de la dépendance qui est posée. Et ça, c'est un sujet sociétal qui devrait être traité au niveau de l'État et pas laisser des opérateurs publics ou privés se faire la guerre du profit sur des sujets comme ceux-là.
Quand vous parlez de visites médicales, vous faites allusion par exemple à ce programme Veiller sur les parents.
Voilà, Veiller sur les parents.
C'est un nouveau rôle pour les facteurs, mais est-ce qu'ils ont reçu, ils ont une formation particulière pour ça? Est-ce qu'ils sont payés en plus pour cette activité?
Ah, ils ne sont pas payés en plus, il doit y avoir une formation, mais même par exemple pour la formation, et c'est là où ça peut même mettre très en difficulté les facteurs, on leur apprend par exemple à limiter la longueur d'une discussion. Avant, le facteur est rentré chez la personne, discutait avec la vieille dame, le vieux monsieur. Et là, aujourd'hui, on lui dit « Oui, mais il ne faut pas que tu dépasses 3 minutes. » Et donc, la personne qui, en plus, à payer pour avoir ce service qu'avant on avait gratuitement, elles se sentent doublement flouées. Et c'est là aussi le malaise des postiers et des postières lorsque on les oblige à travailler de cette manière-là.
C'est une forme d'aide à domicile, mais alors limitée dans le temps. Alors.
Absolument, limitée dans le temps. Et c'est là vraiment uniquement des visites pour voir si les gens vont bien.
Nadège Vézina, sur ces nouvelles activités de la Poste.
Bien. Ce qui interroge, c'est... Alors, il y a deux choses. Pour répondre sur les nouvelles activités, en effet, le monde bouge. La Poste ne peut pas bouger, ne pas bouger dans un monde en évolution. Donc, le développement de nouvelles missions est quasiment inéluctable. La cyber économie, vous en avez parlé, les services de proximité, les missions du facteur qui va aller voir les seniors à domicile. Il faut trouver de nouvelles missions, pourquoi pas. Mais l'élément qui va être clé, ça va être de les rendre acceptables à la fois au public, aux populations, avec des besoins, et à la fois acceptables en interne, aux postiers. Parce que pour certains facteurs qui se rendaient déjà au domicile des gens pour voir s'ils allaient bien, sans être payés pour cela, ça les trouble, ça peut avoir un caractère extrêmement troublant de devoir d'être rémunérés pour des missions qu'on faisait gratuitement au préalable.
Selon le Progrès de Lyon, j'ai lu cela, la Poste va vous aider bientôt à remplir votre déclaration d'impôt, un nouveau service, le facteur comptable. La Poste, là, a trouvé un nouveau marché, mais ce sera payant.
Régis Blanchot. Et là, c'est lié à la fonction publique en général, dont les objectifs pour 2022, par exemple, est de tout dématérialiser. Sauf qu'il y a quand même 20% des Français et des Françaises qui n'ont pas Internet. Et là, par exemple, la Poste, par son réseau, a un rôle à jouer. Mais est-ce que c'est un rôle commerçant ? Ou est-ce que c'est la responsabilité de l'État de donner les moyens à sa population de vivre de la même manière, quels que soient ses moyens et son lieu de vie ?
Nadège Vézina.
Et la question que ça pose, c'est est-ce que le service public doit-il par essence être rentable ? C'est une question qu'on devrait poser. Est-ce qu'on se situe uniquement dans un raisonnement économique, marchand, comme vient de le dire mon collègue ? Est-ce qu'on est dans la qualité de service ? Là, on a une transposition des normes du privé qui sont en train de s'appliquer au public. Et donc, ça donne lieu à des inquiétudes sur les missions de service public qui pourraient être rognées au profit d'un équilibre financier qu'on rechercherait, alors qu'on pourrait se poser la question, doit-il être recherché ?
Caroline, bonsoir Caroline.
Oui, bonsoir.
C'est à vous maintenant.
Merci. Je suis postière en Lozère, donc dans un endroit enclavé sur deux petits villages. Hein, le matin, un village de 300 habitants, l'après-midi, un village de 500. Et je voulais apporter mon témoignage quant à la nécessité du lien social, l'importance de cette rôle-là pour toutes les personnes fragiles, les personnes âgées. Si on n'est pas là effectivement pour qu'ils viennent retirer leurs 3 sous, pour envoyer leur colis, il n'y a personne. Sur l'un de mes deux bureaux, il y a un distributeur. Si mon bureau ferme, on est sur la sellette. Évidemment, les gens vont faire 1 heure de voiture aller-retour pour retirer le moindre billet. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que la logique de rentabilité qui est annoncée en ce qui concerne la Poste, c'est par rapport au nombre d'opérations, au nombre de clients qui sont là. Or, le fait est que on n'a pas énormément de clients, mais ce sont des gens fidèles. On est le département avec une bancarisation principale à la Poste, qui est énorme, ce qui doit faire rêver tous les banquiers aujourd'hui. Et on coûte très peu cher, puisque on est tout seul, on n'a pas de vigile, on a des gens qui laissent leur argent ici, puisqu'ils viennent pas retirer jusqu'au dernier centime dès que leurs malheureux sous sont tombés. Il y a quelque chose de vraiment important dans la relation et on ne peut pas se baser sur uniquement des chiffres, c'est impossible. C'est vrai que les facteurs qui ont des tournées incroyables, ils ont jusqu'à 100 km par jour, ils ont de la boue jusqu'au toit en ce moment quand ils reviennent de tournée, qu'ils aient 1 lettre ou 4 lettres, effectivement, ils font la même tournée, mais il y a une nécessité de maintenir ce lien social pour les plus fragiles, pour les plus âgés. Effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire sans nous ? On les jette dans les HLM en bordure de ville, qu'est-ce qu'on en fait ? On coûte honnêtement pas très cher, je veux dire, on est tout seul, je m'en vais, j'éteins mes machines, je baisse le chauffage, je me débrouille un peu toute seule pour tout faire, voilà, on n'a pas de brigade anti-graffiti, etc. Ouais. Leur calcul n'est pas forcément le bon, je pense pas, et c'est vrai que c'est assez anachronique d'être encore ouvert sur des 6 petits villages. Néanmoins, on a un accompagnement, y compris numérique, y compris social, et je pense qu'on reste important. Je voulais en faire part.
Mais c'est très bien. Merci de nous avoir témoigné en direct sur France Inter. Caroline, Régis Blanchot, vous partagez ce constat, ce rôle
bien
essentiel.
Sûr, le rôle difficile. Essentiel. Difficile. C'est un rôle essentiel. Elle est alors difficile et en même temps, j'irais plaisant dans le sens où le facteur, la factrice, le guichetier, la guichetière sont des gens importants dans les petites communes et ça montre bien toute leur utilité. Mmh. C'est on fait un boulot qui plaît à cause de ça, ou grâce à ça.
Nadège Vézina.
Oui, et c'est une mission de service public en tant que telle qui est reconnue, la mission d'aménagement du territoire. Après, il faut pas oublier qu'en d'autres endroits, par exemple les grandes villes, le rapport Larcher le pointait déjà, que 62% des points de contact de la Poste étaient dans les zones rurales et regroupaient 25% de la population. Donc ce qu'il faut en comprendre, c'est que les 75% restants de la population doivent se contenter des 38% des points de contact autres, d'où parfois des files d'attente, des temps d'attente un peu longs sur les réseaux qui sont surchargés. Qu'en effet, il y a une double logique, à la fois surcharger les réseaux urbains, les décharger eux, parce qu'ils ont beaucoup de besoins à avoir, et puis de l'autre côté, donner de nouvelles missions, comme les maisons de services au public, qui n'ont rien de nouveau. Parce que on présente ça comme une innovation, mais c'est pas le cas. Il faut pas oublier, on présente ça comme vraiment quelque chose d'extrêmement original, mais ce n'est qu'une réactivation des maisons du service public dans les années 90, ça avait été lancé, qui ne sont qu'une réactivation de ce qu'on appelait la polyvalence administrative, qui date d'un décret de 79.
Un témoignage, un courriel qu'on a reçu à propos de ce qui se passe à l'étranger. En Allemagne, les bureaux de poste sont dans des magasins et ça marche. C'est Michel qui nous écrit. En Allemagne, les agences de la poste sont dans des magasins ouverts de 8h30 à 18h et le samedi matin, toutes les opérations de la poste peuvent y être faites. Donc en Allemagne, il y a un contrat entre la poste et ses magasins. Une formation et l'équipement est fourni. Toutes les opérations, y compris financières, peuvent y être effectuées. Nadège Vézina.
Ce qui n'est pas le cas ici. Oui. Ici, vous avez, Régis Blanchot en a parlé tout à l'heure, des points de contact qui ne sont plus des bureaux de poste, qui sont des relais postes ou des agences communales postales qui dispensent un certain nombre de services, mais pas la totalité des services postaux et pas dans les conditions d'un bureau de poste. Notamment, je pense aux conditions pour les services bancaires de confidentialité.
Les auditeurs nous écrivent et nous disent « Mais pourquoi il n'y a pas de représentant de la direction de la Poste ce soir ?» Très bonne question. Je peux vous le dire, nous avons invité, évidemment, un représentant de la direction de la Poste, mais ils n'ont pas souhaité venir dans ce studio ce soir répondre aux questions des auditeurs et nous le regrettons.
Alors, c'est pas la première fois. Je suis blacklisté. C'est dès que je suis là, ils viennent pas. Et juste aussi une précision par rapport au mail précédent sur toutes les opérations en Allemagne. Oui. On peut pas comparer. En Allemagne, par exemple, sur les opérations financières, la banque postale allemande a été vendue. La banque allemande, c'est de la logistique, c'est du courrier, mais il n'y a plus du tout de services financiers à la banque allemande.
Patrick, avec nous en direct au Standard. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, donc moi j'ai une expérience en Suisse pendant pas mal d'années. Il existe en fait un service de carte postale en fait suisse qui dessert quasiment la totalité de tous les petits villages. Donc ils ont évidemment l'enseigne évidemment la poste si vous voulez, c'est exactement pareil. D'ailleurs ça ressemble un peu au bus traditionnel qui font les livraisons de courrier par exemple, qui traînent le courrier. Et en fait, on dessert quasiment la totalité de tous les villages. Et il y a des accords avec les cantons suisses, en fait, et ça marche très très bien depuis des années et des années. Hein. Et ça pourrait être une bonne idée, surtout quand on parle maintenant de la SNCF, de la suppression des petites lignes, etc. Là, ce sont des villages qui sont touchés. Moi, j'habite dans la Drôme, par exemple, et il y a des villages qui n'ont absolument pas de transport, qui ça n'existe pas. Voilà, donc en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même un esprit très jacobin, très centralisateur, et en fait, on a des énormes administrations qui pourraient être décentralisées carrément, avec l'expérience de la Poste, hein, je veux dire, c'est tout simplement, voilà.
Merci d'avoir témoigné, Patrick. On va toujours au standard retrouver Pierre-Marie qui est avec nous. Il est à Paris. Bonsoir. Ah, c'est Cathy. D'accord, très bien. Je vais suivre l'ordre que l'on m'indique. Alors, Cathy, en ligne, qui est factrice à Rennes, si je lis bien.
Oui, allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je suis factrice à Rennes. Nous sommes à notre 45e jour de grève sur les bureaux rennais. Donc la direction de la Poste nous impose une réorganisation, une énième réorganisation qui se solde par la suppression de 15% des positions de travail. Donc on aimerait renégocier parce que les tournées ont mal été estimées. On ne tient pas compte des services qu'on nous demande de faire de plus en plus sur les tournées. On ne tient pas compte de tous les colis qu'on réinjecte sur les tournées facteurs vélo et piétons.
Oui.
Donc tout ça, évidemment, ça rallonge la tournée. Et du ce fait, au lieu de faire une tournée qui démarre le matin pour se terminer en début d'après-midi, comme c'était le cas, puisqu'on travaille 6 jours sur 7, la nouvelle réorganisation prévoit de nous faire travailler le matin et l'après-midi avec une coupure entre les deux, le midi, qui s'appelle la méridienne et qui ne serait pas rémunérée. Donc ça implique de finir en milieu d'après-midi, ça implique une dégradation de la vie personnelle pour les jeunes parents, pour les gens qui font des activités par ailleurs, en dehors du travail.
Cathy, racontez-moi une tournée que vous faites, parce que en fait vous nous expliquez qu'on vous demande de plus en plus de choses, on charge votre emploi du temps. C'est quoi à peu près une tournée effectuée par vous?
Alors la tournée que je faisais il y a 10 ans, 20 ans, elle n'a plus rien à voir avec celle que l'on fait actuellement. On a du courrier, bien sûr, les lettres recommandées qu'on distribue à domicile. Mais on a aussi donc des colis et puis on passe de plus en plus à domicile chez les personnes faire du service. Ça peut être aussi vérifier qu'une personne a bien reçu en main propre un courrier mais publicitaire. Donc pour nous, c'est pas le courrier prioritaire. La Poste est bien obligée de se développer. On n'est pas contre le fait qu'une entreprise doit évoluer. Mais il faut peser toutes les choses dans les tournées. Et en l'occurrence, c'est là que ça pêche.
On vous demande de plus en plus et on ne vous paye pas en conséquence, Nadège Vézina.
Oui, c'est un témoignage extrêmement intéressant parce que derrière des réorganisations incessantes, on a tendance à réduire les réactions des postiers à de la résistance au changement. Or, c'est pas forcément de la résistance au changement que d'exprimer des difficultés sur ce qu'ils sont en train de vivre.
Régis Blanchot.
Oui, c'est totalement vrai. Et ce qui est quand même important, c'est, là par exemple, c'est 15% des emplois qui sont supprimés. Mmh. La baisse du trafic, par exemple, c'est -6, -7% par an. Comme c'est des réorganisations permanentes, on voit bien là qu'il y a un problème au niveau de l'emploi. Et simplement quand même, parce qu'il y a souvent des mots qu'on laisse entendre, qu'il n'y aurait plus de courrier. Il reste tout de même par an 10 milliards 600 000 plis adressés. Et surtout,
10 milliards
10 milliards, vous voyez, c'est quand même pas rien.
C'est,
et l'autre chose aussi, c'est que avant, c'était beaucoup de courriers d'entreprise, du courrier administratif, donc des lettres formatées. Et là, maintenant, la vraie difficulté qu'il y a, que la collègue a bien soulevé tout à l'heure, c'est que là, c'est les colis, c'est ce qu'on appelle aussi les PPI avec le développement d'Internet.
L'e-commerce, beaucoup de travail.
C'est le e-commerce, tout à fait. Ouais. Et là, par exemple, c'est des petits paquets qui viennent pour la plupart de Chine. Et quand vous distribuez ça, vous ne distribuez pas une lettre. Et pourtant, c'est un pli.
Nadège Vézina.
Moi, pour revenir sur ce qu'a dit l'auditrice, ce qu'elle montre bien avec l'exemple qu'elle a pris de la pause méridienne, c'est le décalage qui existe entre la réalité du terrain et ce qui est pensé au niveau du siège. La pause méridienne, le fait de rentrer, faire une pause le midi pour le facteur en plein milieu de sa tournée, qu'est-ce que ça induit pour lui? Eh bien, ça induit certes peut-être une pause déjeuner, mais quand il est sous la pluie, trempé, qu'il rentre sans pouvoir se changer, qu'il doit attendre une heure avant de repartir, eh bien, je conseille à tous les cadres qui l'ont pensé d'aller accompagner juste une fois cette factrice pour voir de quoi il s'agit et se rendre compte que le temps d'attente, faire une pause et repartir à 14 heures l'été en pleine canicule, eh bien, finalement, peut-être qu'il faut commencer tôt le matin pour finir le plus tôt possible aussi, dans certains cas. Et l'absence de possibilité d'adaptation aux réalités du terrain me semble compliquée, complexe.
Je rappelle, Nadège Vézina, que vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et que vous avez publié aux presses universitaires de France « Les métamorphoses de la poste ».
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Voilà, je l'avais annoncé, Pierre-Marie est en ligne avec nous, il vit à Paris, il souhaite intervenir. C'est à vous, bonsoir Pierre-Marie.
Oui, bonsoir, c'est Pierre-Marie, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Bon, très bien. Bon, alors j'ai été rappelé, écoutez, c'est formidable. D'abord, je voulais dire par rapport à la collègue qui vient d'intervenir, enfin moi je suis pas facteur, j'entends tout ce qu'elle dit et j'ai le plus grand respect pour les facteurs. Je voulais juste faire un témoignage, c'est que donc j'habite Paris 20e, je ne suis pas dans la ruralité. Je reçois entre 3, 4, peut-être 5 colissimos par an. Pourquoi sur 4 sur 5 ou 3 sur 5 colissimos, ils ne sont jamais remis dans les 48 heures, enfin voilà, comme ça fonctionnait très bien à une époque. Le problème qu'on annonce sur Paris, c'est que on n'a pas d'avis de passage. Si on ne suit pas sur Internet le suivi de courrier, on ne sait pas où sont les colis. Alors on apprend que les adresses sont impossibles, SIC, je cite, entre guillemets, oui. Alors qu'elles sont complètes. Alors quand vous passez au bureau de poste, comment dire, le mon témoignage irait plutôt dans le sens les facteurs ou le personnel de la poste, ils sont souvent très sympas et ils essaient de vous aider, mais votre colis n'arrive pas. C'est-à-dire, ouais. Ensuite, vous tombez sur des plateformes de temps en temps, vous avez des personnes très très sympathiques. Alors moi, par habitude, j'ai toujours fait être enregistré parce que des fois vous avez des personnes que vous ne comprenez à peine. Et ce n'est pas du racisme et tout, mais parce qu'elles ont un fort accent. À qui vous demandez qu'ils soient relivrés, c'est ce qui m'est arrivé au mois de janvier. J'avais un torticolis, bon, donc j'étais handicapé. Oui. Et vous devez quand même aller rechercher le colissimo. Donc,
mais Pierre-Marie, vous dites les colis n'arrivent pas, mais pourquoi ? Quelle est votre explication ?
Quelle est mon explication ? Je sais que la Poste sous-traite, si vous voulez, qu'il y a des phénomènes de sous-traitance. Ouais. Et souvent, par exemple, je suis tombé sur une dame. Enfin bon, normalement, la Poste, elle a des passes pour entrer dans les immeubles parisiens ou dans voilà. Tout ça fonctionnait très très bien. Et en fait, je pense que c'est pas parce qu'il y a un problème de sous-traitance qui est censé préparer la concurrence à l'Europe. Mais enfin, vous voyez, la Poste n'est pas prête parce qu'en fait, avec ce problème de sous-traitance, si vous voulez, les gens n'ont pas le code. Non pas, enfin voilà, donc voilà, et ça m'est arrivé plusieurs fois.
Pierre-Marie,
je voudrais,
oui
pardon,
allez-y, mais pas trop longtemps parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et je voudrais que nos invités réagissent à votre témoignage.
Voilà, donc je voulais juste dire que moi, la Poste, j'ai mes comptes bancaires à la Poste, oui. Je suis à la Poste mobile, je suis, c'est-à-dire que tous les services annexes, comment dire, puisque la Poste essaie de se diversifier en vue de la concurrence, le problème c'est que sur tous ces trois plans-là, j'ai toujours des problèmes de fonctionnement qui au final sont résolus parce qu'il y a toujours des gens formidables, mais on sent que les gens travaillent à flux tendu ou sont, enfin, voilà. Donc quand on parle qu'il y a un petit bénéfice, etc., mais qu'on entend des facteurs ou des factrices qui sont au bord du burn-out et que moi, tout simplement, bon, je reçois pas le colis, mais comme je connais l'expéditeur et que j'ai le numéro de suivi, je peux le suivre, je peux, voilà, vous voyez. C'était pour témoigner d'une
espèce de malaise. Eh bien, parfait. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Pierre-Marie, Régis Blanchot.
Oui. Alors sur les colis, c'est vrai qu'un des grands problèmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est la sous-traitance. Sous-traitance massive. 80% des colis en Île-de-France sont sous-traités maintenant. Et avec des personnes qui travaillent dans des conditions de travail exécrables, et qui sont payées au colis. C'est-à-dire que pour gagner à peu près bien, ou on va dire de manière acceptable de sa vie, ils sont obligés de faire d'amener un nombre de colis qui est quelquefois le double de ce que fait le facteur. ou le distributeur de colis de la Poste. Et donc, c'est, ça a forcément des conséquences sur les conditions de travail, et c'est pas faire injure à ces pauvres personnes qui sont obligées de travailler dans telles circonstances que nous sommes obligés de dénoncer. Et d'ailleurs, on en arrive à arriver récemment à mettre la Poste en examen. Mmh. Et va passer au tribunal pour sous-traitance abusive.
Nadège Vézina, je rappelais les chiffres hein, publiés aujourd'hui, les résultats annuels de la Poste pour 2017. Bénéfice net en hausse de 0,3%, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5%. Ce sont des chiffres plutôt encourageants. Mais derrière ça, si on écoute les témoignages de certaines personnes qui travaillent à la Poste, c'est un travail à flux tendu. C'est, on pousse les postiers à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à de bons résultats, mais on demande sans doute trop.
On demande beaucoup, en tout cas. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, je dirais bien un mot sur l'auditeur précédent, mais il y a des indicateurs. La Poste mesure le travail et notamment, elle mesure, je fais un lien avec la question précédente, ouais. Elle mesure le temps de passage, le temps de distribution des instances. Donc, quand vous avez moins de 2 minutes pour déposer un avis d'instance, eh bien, évidemment, vous le déposez pas, vous sonnez pas, vous prenez pas le temps, vous allez très vite. Donc, il y a cet élément-là, ces indicateurs performance qui jouent pour les postiers. Vous avez aussi, ça a été évoqué, les questions de sous-traitance qui fait que les postiers prêtent serment. Ils ont une prestation de serment qui font qu'ils s'engagent à respecter les intégrités des colis, ce qui n'est pas le cas des sous-traitants qui vont travailler quelques jours et ne pas revenir. Sur ces indicateurs qui sont extrêmement intéressants, on a parlé beaucoup à France Télécom de situations extrêmement tendues, mais on pourrait s'intéresser tout simplement au taux d'absentéisme. On pourrait s'intéresser au nombre d'arrêts maladie. Ce sont des indicateurs pour mesurer les situations de bien-être ou de mal-être au travail extrêmement intéressantes.
Qu'est-ce qu'ils disent ces indicateurs à la Poste ?
Ils sont très mauvais.
Régis Manchot, oui.
Ils sont très mauvais. Il y a des taux d'absentéisme qui sont records, plus que dans toutes les autres entreprises. Parce que, par exemple, le nombre de jours d'arrêt dans les services, il y a 2 ans, c'était 14 jours et demi. À la Poste, on a 26. Mmh. Là, il y a vraiment un vrai souci. Et la Poste refuse de le voir. Les dirigeants de la Poste refusent de le voir. Elle dit c'est le vieillissement des postiers. Alors que lorsqu'on regarde la composition, ce n'est pas ça. Et il y a eu une période où ils avaient fait revenir M. Caspar, l'ancien patron de la CFDT, et qui était missionné d'une charge pour faire un débat sur ces questions-là. Ça, c'était en 2012. Là, depuis, l'absentéisme a continué à progresser. Et ça montre un vrai souci.
Xavier, bonsoir Xavier, vous êtes dans la Drôme.
Oui, voilà, bonsoir. De me laisser la parole, c'est super.
Allez-y.
Alors moi, on va faire vite. Donc j'ai voulu tester la banque postale, que désormais j'appelle la Poste bancale, dans le sens où j'ai ouvert un compte là-bas l'année dernière, et puis en octobre, pas satisfait du service. J'ai voulu clôturer mon compte. On m'a dit, ça se passe au guichet. J'ai fait la démarche de clôture, j'ai donné le RIB. Et donc c'était fin octobre. Là, on est fin février, j'ai toujours pas reçu le solde de mon compte. Donc j'ai plusieurs formulaires de recours, de médiation, de ci, de là, envoyé quelques recommandés, qui à chaque fois coûtent leur prix. Ouais. Et le dernier de monsieur que j'ai envoyé à monsieur Segura, qui, s'il m'entend, le médiateur devrait me reconnaître, m'a répondu que la procédure n'était pas en ordre, et donc du coup
Xavier,
il m'a renvoyé le dossier.
Xavier, on a un problème, la ligne téléphonique n'est pas très bonne, on ne vous entend pas très bien, vous êtes sur un portable, mais simplement, vous nous avez dit, j'ai renoncé à la banque postale parce que je n'étais pas content des services rendus. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas ? Qu'est-ce qui n'allait pas ?
C'est-à-dire que pour moi, le côté banque est pratique puisque c'est au guichet qui est à 500 mètres de chez moi, et en fait, tout se passe au centre financier qui est à 300 km. Et donc, en fait, les interlocuteurs, les guichetiers qu'on rencontre, finalement, eux ont aucun pouvoir sur nos comptes et aucune possibilité d'interagir sur une question qu'on a, quoi. Mmh. Et donc, moi, ça fait presque 6 mois que j'attends le solde de mon compte. Je pense qu'il y a un peu un problème. On m'envoie balader et puis surtout qu'au téléphone, enfin, il n'y a plus aucune trace de mon compte en banque. Bon. Et comment on fait, quoi ?
Régis Blanchot, est-ce que vous êtes surpris par ce témoignage ?
pas surpris, hein. Il y en a un certain nombre, c'est comme un peu dans tous les secteurs de la Poste, c'est de prioriser les résultats à la qualité de service, c'était une des premières questions. Et là, il y a, je pense qu'il y a nécessité, même s'il ne faut pas généraliser, mais il y a nécessité d'avoir une vraie réflexion sur le travail, parce que en même temps, quand les agents, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est que les postiers et les postières ne veulent pas ne pas bouger, mais veulent travailler dans de bonnes conditions et que leur travail ait un sens. Et ça, aujourd'hui, c'est ça qui manque et c'est ça qu'il faut
Donc, les multimétiers à la poste, banque, mobile, service internet, assistance aux personnes, obtention de la carte grise, permis de conduire, on peut passer le code de la route grâce à la poste. Vous êtes pour ? Mais il faut donner les moyens et ne pas
juste de,
exercer une pression maximum sur le personnel pour fournir tous ces services.
Il y a deux choses. Un, que ces activités puissent se faire dans de bonnes conditions, ça c'est sûr. Je vais prendre juste un exemple, celui du permis de conduire. Bon, c'est quelque chose qui répond à un besoin de...
On peut passer le code, le code de la route.
On peut passer le code, et c'est vrai que ça facilite, pour beaucoup de jeunes, le passage du permis de conduire. Ça répond donc à une attente des populations, très bien.
Mais
sur d'autres activités, si elles dépendent, qu'elles peuvent être une mission de service public, de service d'intérêt général, pourquoi pas ? Et dans quelles circonstances on le fait ? Mais ça veut dire que l'État doit prendre ses responsabilités, et puis ça veut dire aussi, je dirais juste un mot là-dessus, que l'État paye pour les missions de service public. Chaque année, elle laisse une ardoise de 500 millions d'euros à la Poste.
Nadège Vézina, vous voulez compléter ce que vient de dire Régis Blanchot ?
Oui, je pourrais dire que ce que pointe ce témoignage, c'est que l'organisation de la Poste autour de métiers séparés, une organisation en silo autour des différents métiers, colis, banques, etc., ça montre la nécessité d'un travail sur la cohésion du groupe en interne, c'est-à-dire sur l'échange des métiers entre eux, sur les restructurations, les compétences entre elles et le fonctionnement quand même global de la Poste.
Dernier appel ce soir, c'est Caroline. Bonsoir Caroline.
Bonsoir. Eh bien moi c'est simplement un témoignage et aussi en profiter pour remercier mon facteur que je trouve vraiment formidable. Voilà, je suis pas factrice, j'ai aucun intérêt à la Poste, mais moi j'habite un tout petit village dans l'Aisne et mon facteur Bruno me rend des services. Enfin il me rend des services, il fait son travail, c'est-à-dire de prendre mon courrier, mais je lui laisse mes enveloppes affranchies ou non dans ma boîte aux lettres avec une pince à linge. Il récupère le courrier, il me laisse la facture, je le règle. Enfin, voilà, et il me rend un service, c'est irremplaçable pour moi.
Et ce service, pour l'instant, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est menacé par des réorganisations ?
J'ai l'impression quand c'est pas Bruno, quand il a une remplaçante, ma pince à linge peut rester 3 jours en place et mon courrier au fond de la boîte. Ça peut arriver. Alors je ne sais pas, lui est-ce qu'il est stressé, j'en sais rien. Il m'a jamais parlé de ça, mais en tous les cas, j'espère que ce service-là continuera, parce qu'effectivement dans mon village je suis certaine qu'il y a des personnes qui ne voient de la journée que Bruno, en fait, que le facteur.
Régis Blanchot, sur ce contact direct très fort entre cette habitante et le facteur.
Tout à fait, c'est pour ça que généralement, par exemple, l'année dernière, sur un sondage, le métier de facteur, c'était le deuxième métier préféré des Français et des Françaises, derrière le boulanger et devant le pompier. On voit bien quand même la proximité. Maintenant, que ce soit en danger, oui, parce que, comme le disait Nadège Vézina tout à l'heure, tout est chronométré. Et la deuxième chose, c'est qu'y compris, il peut y avoir des directives locales interdisant de rendre service aux usagers, parce que ça prend du temps.
Merci à nos invités. C'était le Téléphone Sonne, consacré ce soir donc à l'avenir de la Poste, avec la publication aujourd'hui de ses résultats. Merci à Régis Blanchot, cadre au service courrier du Centre financier de Paris, syndicaliste Sud PTT, et Nadège Vézina, qui est sociologue, maître de conférence à l'Université de Reims, Champagne-Ardennes. Elle a publié aux presses universitaires de France Les Métamorphoses de la Poste. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette semaine ce rendez-vous du 18-20 à la technique, Ludovic Asselot, Loïc Frapso, Sarno Caillé, Ronan Mahé, Djoubaka, c'est la programmation musicale, bravo, des CD formidables. La rédaction en chef, Marie-Claude Pinson, aidée avec l'aide de Nathalie Poitvin, Amélie Stadelman pour la préparation des rendez-vous, les contacts avec les invités, Jimmy Bourquin pour la préparation documentaire, car je ne suis pas omniscient, il me faut de la documentation, et puis la réalisation, Hélène Biziot. Merci, sans vous, ça ne marcherait pas. Il est 20h.